soir, c'est à CKIL que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Fan de rock progressif. Profil, c'est votre référence depuis 30 ans. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découvertes musicales.
Bonjour, ici Julianne Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 1er mai 2026. Depuis mars, une toute nouvelle émission résonne sur les ondes de CKIA 88.3, Les Vraisemblables. Pendant près de 2 heures, des gens de la rue se confient sur leur réalité, de la dépendance aux préjugés, en passant par l'isolement, la violence et la survie constante. C'est celle qu'on surnomme fièrement Baby Boo qui est derrière le projet. Dans un C-Rock fragilisé, ses confidences, parfois dures et touchantes, se terminent sur un beau moment de karaoké en direct. Retrouvez notre reportage complet au ckiafm.org. La 4e édition du cabaret populaire du 1er mai à Québec aura lieu ce soir à la salle de l'Arquemuse située au 151 A rue Saint-François-Est. Débutant à 18h, cet événement suivra la manifestation du 1er mai, dont le départ aura lieu à 17h à partir de la place de l'Université du Québec. Rappelons que le thème de cette année est contre le saccage du filet social et contre la dérive autoritaire du gouvernement de la CAQ. À Québec, en 2026, le revenu viable, soit l'équivalent du revenu après impôt nécessaire pour un panier de biens et de services qui permet une vie hors de la pauvreté, varie de 37 540 $ pour une personne seule à 50 516 $ pour une famille monoparentale et 80 741 pour un couple avec 2 enfants, selon une étude de l'IRIS rendue publique hier. Depuis 2015, l'IRIS calcule le montant nécessaire pour permettre à différents types de ménages de sortir de la pauvreté pour les villes de Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières et Sept-Îles. Après 5 ans relativement stables, les achats en ligne au Québec semblent amorcer une nouvelle phase de croissance et atteignent un sommet historique selon la plus récente enquête « Net tendance » de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. L'enquête révèle par ailleurs un recul des ventes d'Amazon au profit des marchands québécois et canadiens. Ce recul s'expliquerait par le virage protectionniste de notre voisin du Sud et la décision d'Amazon de fermer ses entrepôts québécois. Raphaël Tremblay et Philippe Morneau-Cartier ont été couronnés étudiants athlètes de l'année lors de la 75e édition du Gala Rouge et Or. Raphaël Tremblay a connu une saison exceptionnelle avec un total de 17 médailles, dont 6 au championnat provincial, incluant 3 d'or, en plus d'ajouter une médaille d'argent à l'échelle canadienne. Pour sa part, Philippe Morneau-Cartier conclut son parcours universitaire en force en étant nommé étudiant athlète de l'année pour une 2e année consécutive. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. semble que nous, habitants de Nouvelle-Angleterre, vivons la vie mesquine que nous vivons parce que notre vision ne fait que fuser à la surface des choses. Nous croyons que ce qui semble être est. Si un homme traversait notre ville en ne voyant que la réalité, qu'adviendrait-il, à votre avis, de notre rue principale? S'il devait nous faire le récit des réalités qu'il y a observées, nous ne reconnaîtrions pas les lieux dans la description qu'il nous en ferait. Regardez une salle de réunion, un tribunal, une prison, une échoppe ou une maison d'habitation et dites ce que sont ces choses pour un regard fondé en vérité. Elles s'effondreront toutes dans le récit que vous en ferez. Les hommes tiennent en estime la vérité tant qu'elle demeure distante aux marges du système, au-delà de l'étoile la plus lointaine, avant Adam et après le dernier homme. Il y a effectivement du vrai et du sublime dans l'éternité, mais tous ces temps, tous ces lieux, toutes ces occasions s'inscrivent dans l'ici et maintenant. Dieu lui-même culmine dans l'instant présent et ne sera jamais plus divin que cela au fil de tous les âges. Et si nous sommes capables de saisir un tant soit peu de noble et de sublime, ce n'est que par le truchement des perpétuelles instillations et aspersions issues de la réalité qui nous entoure. L'univers répond avec constance et docilité à toutes nos conceptions, que nous voyagions vite ou lentement, notre chemin est tracé. Alors, passons notre vie à créer.
Il a perdu son frère, et moi, mon enfant. La vie est cruelle ici-bas. Je le vois. Il cache ses pleurs, pendant que moi, je brûle d'une infinie douleur.
Tu n'avais que 5 ans, toute la vie.
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler d'écoféminisme. On a deux invités du regroupement des femmes de la région de la capitale, plus précisément le comité écoféministe du regroupement. Et on a nos invités, c'est Claire Murati et Elisabeth Germain. Alors ça va être plus tard à l'émission. On a aussi Luc Vigneault qui va nous lire un poème après ma revue de presse, que je vais essayer de faire assez rapidement dans les actualités. Alors, ce que j'ai retenu sur cette semaine, dans le devoir de lundi, une bonne nouvelle, disons, qu'on en a besoin de ces temps-ci, semi-bonne nouvelle, les forêts tropicales peuvent se régénérer bien plus vite qu'on le croyait. Les scientifiques croyaient autrefois qu'il faudrait au moins un siècle pour que les animaux recolonisent des terres déboisées sous les tropiques. Or, de nouvelles recherches montrent que des écosystèmes peuvent se rétablir en quelques décennies à peine, au moins pire que des siècles. Ça a été une immense surprise pour nous tous, a déclaré Timo Metz, chercheur postdoctoral à l'Université de Californie à Los Angeles et auteur principal de l'étude publiée dans la revue Nature. Aucun d'entre nous ne s'attendait à un rétablissement aussi rapide, aussi impressionnant. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il y a aussi un texte dans le Devoir de jeudi, hier. Le seconde main fait peau neuve. On va en reparler de ça. En fait, c'est tout le concept de l'économie circulaire. Plus notre économie sera circulaire, moins l'empreinte écologique sera importante. Et au Québec, il y a comme on dit, la seconde main fait peau neuve. La Fibre Atelier veut séduire de nouveaux acheteurs en remettant à neuf les invendus des magasins Renaissance. Alors ça, c'est à Montréal. On va comme créer un magasin, c'est comme si c'était du neuf, mais en fait, c'est du recyclé. C'est qu'ils vont prendre des vêtements qu'ils ne vendent pas dans leur friperie Renaissance, et puis ils vont les retravailler, des artisans vont les retravailler, puis comme les mettre à neuf. Alors, c'est ça, on va en parler d'ailleurs du dossier du recyclage de l'économie circulaire avec une activité qu'on devrait organiser en mai là, à la ressourcerie Nos Choses que je vous recommande d'aller visiter. Là, c'est dans le quartier Montcalm là, sur la rue Père-Marquette au sous-sol d'église Saint-Martyr. Alors, on devrait avoir une activité là-dessus. Peut-être une émission aussi sur le recyclage des vêtements, le recyclage des objets. Autre nouvelle dans le Devoir de mercredi. Le Canada peut-il sortir des énergies fossiles? Ottawa participe à la première conférence mondiale sur la transition hors des énergies fossiles qui menacent le climat. Le Canada participe à la première conférence internationale pour la transition hors des énergies fossiles, une avenue reconnue par la science comme étant essentielle pour limiter les dérèglements du climat. S'il salue la tenue d'un tel débat, le gouvernement fédéral refuse toutefois de préciser comment il pourrait lui-même sortir un jour de ces énergies qui menacent aujourd'hui l'avenir de l'humanité. Au moment où le gouvernement Carney confirmait mardi son intention d'investir des milliards de dollars des fonds publics pour financer notamment des projets pétroliers et gaziers. La négociatrice en chef du Canada pour le climat, Jeanne-Marie Huddlestone, participait à la conférence des délégués gouvernementaux de la première conférence pour une transition hors des énergies fossiles. Cet événement qui se terminait mercredi à Santa Maria en Colombie accueille plus de 50 pays dans un forum qui se veut une réponse aux échecs des récentes conférences climatiques de l'ONU. Il y avait aussi dans le Devoir de samedi un texte sur les mini-maisons. Ça aussi, c'est un dossier à suivre. Le dossier de l'habitation est problématique. Ça coûte de plus en plus cher pour se loger. Puis une des solutions, des portes de sortie, c'est les mini-maisons. Puis on voit que dans ce dossier-là aussi, il y a comme un essor. Alors on dit avec l'explosion du coût de l'immobilier, les mini-maisons apparaissent comme une option attrayante pour accéder à la propriété. Plus compactes et moins coûteuses, elles riment aussi avec un mode de vie axé sur la simplicité volontaire. Au Québec, de plus en plus de municipalités se montrent ouvertes à ce type d'habitation, mais les difficultés demeurent nombreuses pour les citoyens qui en rêvent. Les mini-maisons ont eu un second souffle en 2024, quand Québec a adopté le projet de loi 31 permettant aux municipalités d'autoriser par règlement les unités d'habitation accessoires sans devoir modifier leur schéma d'aménagement. Ces petites habitations peuvent notamment être aménagées dans la cour de propriété existante. C'était dans le Devoir de samedi dernier, mini-maison, maxi-défi. Ici, un texte un peu moins optimiste, c'est l'intelligence artificielle. Un texte dans le Devoir de samedi de Gérard Bérubé, « La convergence entre intelligence artificielle et travail ». Il est attendu que l'intelligence artificielle sera perturbatrice pour l'emploi et sur la main-d'œuvre, et ce, rapidement. Faut-il s'en alarmer? Des projections... De projection en projection, dans son rapport « The Future of Jobs » publié en 2025, le Forum économique mondial indiquait que les employeurs interrogés considéraient que les travailleurs pouvaient s'attendre d'ici à 2030 à la transformation ou l'obsolescence de 39 % de leurs compétences sous le coup de l'enracinement de l'IA. Dans un texte publié par la Banque des règlements internationaux, il est souligné que la révolution technologique qu'elle engendre expose 40 % des emplois dans le monde. Le Fonds monétaire international évoque, pour sa part, une incidence sur environ 60 % dans les emplois, des emplois dans les pays, des pays à l'économie dite avancée. On accepte également le constat que là où l'automatisation et les effets technologiques perturbatrices sur la main-d'œuvre concernant traditionnellement les tâches répétitives, l'IA se démarque par sa capacité à toucher les emplois hautement qualifiés, à cibler davantage les travailleurs du savoir, généralement plus scolarisés. En tout cas, ça, c'est un gros changement qui s'en vient. On va voir, c'est pas encore arrivé. Le bon côté à ça, c'est qu'on va, on semblerait qu'on va de plus en plus robotiser les emplois qui sont répétitifs, des emplois d'usine, qui n'est peut-être pas une mauvaise chose. Il y a des emplois qui sont vraiment abrutissants. Mais là, ça, là on dit, oui, mais ça va toucher tout le monde, même peut-être encore pire, il dit à cibler davantage les travailleurs du savoir plus, généralement plus scolarisés. Puis là-dessus, justement, il y a un beau texte dans la chronique de José Blanchette aujourd'hui, « Touche pas à ma job ». Elle part de l'article que je viens de vous lire là, rapidement, de Gérard Bérubé dans le Devoir de samedi dernier, « Les convergences artificielle et travail ». Alors, le texte de José Blanchet, c'est « Touche pas à ma job, l'IA à la pré-retraite et la pré-retraite à 30 ans. Peux-tu croire, mon jeune, que j'ai connu l'arrivée de l'ordi dans les salles de rédaction où les dactylos cliquetaient encore aux côtés des cendriers débordants, puis les ordis, les disquettes, les cassettes, les téléphones sans fil, les répondeurs, les fax, les VHS, Internet, les CD, les portables, les iPhones, les imprimantes 3D, et chaque fois adoptées sans qu'on pose de questions. Au moment où j'écris ces lignes, j'écoute du bruit blanc dans mes écouteurs pour camoufler le vacarme de la souffleuse à feuilles dehors, une invention du diable qui fait augmenter mon exaspération envers l'humanité et ma pression artérielle. Ce n'est pas la seule invention stupide que le progrès nous inflige. Remarque, mais personne n'est assez intelligent pour s'en débarrasser. Puis là, elle fait le parallèle avec l'IA qui... peut-être une invention qui risque de vraiment nous perturber, en tout cas perturber l'humanité. Alors, c'est à suivre. Et dernière petite nouvelle ou annonce. À Montréal, il y a une exposition qui commence bientôt sur HR, MCHR. Alors, c'est vraiment un grand artiste. Cet artiste-là, il a un talent dessinateur incroyable. Et c'était, on dit, c'est un graveur virtuose. Et c'était un mathématicien. Alors, il fait des ses œuvres, souvent, c'est des sortes de, d'illusions d'optique fascinantes. Alors, ça va être cet été à Montréal. C'est comme dans une galerie privée. En tout cas, c'est dans le Devoir de mardi cette semaine. M-C-H-R, E-S-C-H-E-R, le graveur illusionniste. Dernière petite annonce, ou en tout cas, c'était un événement auquel j'ai participé hier. Françoise David présentait son nouveau livre « Se tenir debout ». C'était une causerie à la librairie Pantoute. C'était toujours intéressant de voir Mme David nous rafraîchir les idées puis nous inciter à continuer à militer. C'est vraiment une militante de vieille date, passionnée. Alors, c'était très, très, très intéressant. Peut-être qu'on l'aura en entrevue là, cet automne. On va voir. Alors, son titre, son livre, c'est « Se tenir debout chez Éco-Société ». Ça vient d'arriver en librairie. C'est seulement 12 $. Alors voilà pour ma revue de presse. Alors, on va écouter la lecture de poésie de notre ami Luc Vigneault.
Ce poème n'a pas été écrit par ChatGPT. Ça s'intitule « Laisser aller, laisser filer », écrit une époque le 6 septembre 2019 à la Maison de la littérature. Laisser aller le vent, laisser filer le temps. Tout laisser glisser, cela jusqu'à temps que le souffle de la poudrerie vienne flatter les congères de neige et les faire onduler d'une douce caresse, balayant le blanc manteau orné de ses plumes et ses cristaux immaculés, tel un sourire à belles dents d'une femme séduisante et bien comme il faut. Même avec une chevelure argentée, elle pourrait être tout de même en mesure de me combler dans mes désirs les plus secrets, si la jeunesse de son cœur résiste à l'usure. Son âme, telle la brise glaciale de l'hiver, suffirait à venir réchauffer mes entrailles meurtries par le baume chaud mais pervers de mes amours tombés sur le champ de bataille. Qui a dit que guerre rimait avec sagesse et que justice rimait avec liberté? Si celle-ci se paie sans aucune tendresse, alors que vaut celle de mon âme esselée?
De nos amours, j'irai planter dans le jardin fleurs à fleurir de beaux matins, moitié métal, moitié papier, pour me blesser un peu le pied, mourir de mort très douce qu'une fleur pousse. Quand vous mourrez de nos amours, j'en ferai sur l'air de ce temps chanson chanteuse pour cet an. Vous l'entendrez, vous l'apprendrez, et vos lèvres m'en seront grées. Mourir de mort très lasse que je la fasse. Quand vous mourrez de nos amours, j'en ferai de livres si beaux qu'ils vous serviront de tombeau, et m'y coucherai à mon tour, car je mourrai le même jour. Mourir de mort très tendre à les attendre. comprendra. Quand vous mourrez de nos amours, j'irai me pendre avec la clé au crochet des bonheurs bâclés. Et les chemins par nous conquis, nul ne saura jamais par qui. Mourir de mort exquise, que je le dise. Quand vous mourrez de nos amours, si trop peu vous reste de moi, ne me demandez pas pourquoi. Dans les mensonges qui suivraient, nous ne serions ni beaux ni vrais. Mourir de mort très vive, que je vous suive.
Alors, on va parler d'écoféminisme avec nos deux invités, comme je vous disais tantôt, Claire Murati et Elisabeth Germain, du regroupement des femmes de la région de la capitale. Alors, bienvenue, mesdames.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être commencer par juste se présenter, parler un peu de ce que vous faites. Alors, pouvez-vous un peu nous parler de votre organisation?
Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. Je travaille pour le regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale. Donc, on a un organisme communautaire qui regroupe des groupes de femmes dans la région. On a environ une quarantaine de groupes de femmes. Quand on parle de la région, c'est de Portneuf à Charlevoix. Puis on fait de la défense collective des droits des femmes. On dit dans une perspective féministe intersectionnelle. Ce qui ça veut dire, en fait, dans un langage plus vulgarisé, c'est qu'en fait, on fait la défense des droits pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes. Donc pour que personne ne soit mis de côté. Donc quand on parle de ça, en fait, on parle notamment des femmes qui peuvent être racisées, des femmes autochtones, des femmes en situation de pauvreté, des femmes en situation de handicap. Donc pour que toutes ces femmes-là, en fait, elles arrivent à une égalité en droit puis en fait. C'est ça par rapport aussi aux hommes. Donc c'est notre mission. Puis on travaille principalement sur 4 enjeux. Les violences faites en femmes, la santé des femmes, la pauvreté des femmes, puisque ce sont encore elles qui sont malheureusement les plus pauvres dans la société, et l'écoféminisme, donc l'écologie, puis l'impact de l'écologie sur les femmes. Donc c'est un peu pour ça qu'on est là ce matin, donc pour parler du comité qui s'occupe de l'écoféminisme.
Ça me rappelle ma soirée d'hier avec Mme David qui parlait de l'importance des groupes communautaires, comment c'est le communautaire au Québec, puis c'est un peu je dirais qu'au Québec, on se démarque un peu de ce côté-là, là, que le communautaire est très développé, puis c'est, elle nous parlait de les personnes qui étaient venues avant elle, là, elle parlait des groupes de femmes, là, de Mme Parent puis Mme Robach, qui comme un peu ses mentors, eux. Alors, c'est ça, fait que c'est un bel exemple de ce que Mme David nous parlait hier, très important, le communautaire, les liens entre les gens. Mais aujourd'hui, moi, mon émission, c'est une émission de philosophie et d'écologie. Alors, ce qui m'intéresse plus, c'est l'écoféminisme. Alors, on ne pourra pas aborder tout le dossier des revendications des femmes, peut-être une autre fois, mais moi, j'ai une émission sur l'écologie. Vos amis de la Terre qui m'ont recommandé de vous rejoindre. Alors, on va entrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que votre comité d'écoféminisme fait?
Ce qu'il fait, ou en tout cas, je pensais qu'on pourrait commencer par parler un petit peu plus d'écoféminisme proprement dit. C'est évidemment une double source, l'écologie et le féminisme. C'est la perspective du point de vue des femmes sur l'écologie. Et cette perspective-là, essentiellement, c'est ce qu'on appelle une perspective de subsistance, c'est-à-dire considérer les choses du quotidien. On prend l'écologie par le bout du quotidien vécu, c'est-à-dire des besoins de base. Comment ça se fait qu'on fait ça? Ben, c'est beaucoup parce que depuis des siècles et des millénaires, les femmes ont été assignées aux soins des gens, aux soins de leur entourage. Et ça, ben, ça nous a comme ouvert les yeux, fait développer des capacités sur la façon, justement, de prendre soin des gens et de la planète. Alors, c'est pas... Là, il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on a une tendance innée à prendre soin. C'est vraiment toute l'histoire de l'humanité qui a fait que les femmes ont développé un regard, une capacité de voir, des capacités concrètes à prendre soin, parce que c'est ça qu'on faisait dans le quotidien.
Mais moi, j'aime dire qu'on est des terriens, que nous sommes des terriens, puis ça nous l'a rappelé, les astronautes qui nous le rappellent, là, la mission Artemis qu'on a vue dernièrement. Les astronautes, quand ils vont sur la Lune ou autour de la Lune, ils disent « c'est pas la Lune qu'on découvre, c'est la Terre ». Nous sommes des terriens. Et l'écoféministe, il me semble, il y a un côté plus connecté, parce qu'on dit la mère, la Terre. Hein, le côté féminin de l'écologie, pour moi, il est important. Puis c'est un peu l'angle mort. On a tendance à parler... qui est important, là, comme je disais, de façon rationnelle, le temps d'émission de CO2, des chiffres, tout ça, mais le côté féminin, c'est comment on ressent tout ça, là?
Oui, mais tu sais, il faut faire attention au côté féminin, là, parce que trop facilement, on identifie les femmes à la nature, à l'amour, aux soins et tout.
Oui.
Je pense que ça a été appris au long des millénaires, justement, appris socialement. Mais il n'empêche qu'on a développé plus particulièrement cette sensibilité qui est aussi présente chez les hommes, là. En fait, ce qui est équilibré, c'est que les femmes aient les deux côtés qu'on a développés comme plus masculin ou plus féminin. Et de même que les hommes doivent aussi développer leur côté féminin parce qu'on est des humains d'abord. Le genre a pris une énorme importance aujourd'hui, mais... il reste que fondamentalement, on est des humains. Puis comme tu dis, on est des humains sur la planète Terre. Et ça, oui, quand les astronautes sont à l'extérieur, ils voient la Terre, puis ils prennent conscience que, ah, c'est notre boule de vie. Mais en même temps, il faut faire attention à ce regard détaché, comme si la nature, l'écologie, c'était en dehors de nous. Il n'y a pas nous et l'environnement. Il y a nous dans cet environnement-là. On fait partie de l'environnement. Puis l'écologie est nécessairement humaine et sociale, en plus d'être naturelle ou biologique ou technique et tout. Alors, c'est vrai, c'est ça, tout est relié. Tantôt, Claire parlait des droits des femmes, quelle que soit leur position sociale. Ben, c'est parce que quand tu touches à un morceau, tout le reste est affecté. Alors, il faut prendre soin de toutes ces connexions-là, les connexions biologiques, le climat. L'importance du climat, c'est qu'on est connecté. L'importance de la biologie, c'est qu'on est connecté. Les vivants vivent des connexions avec leur entourage et des connexions entre eux aussi. Alors, connexion, c'est vraiment un maître mot pour l'écoféminisme aussi.
On va juste prendre une petite pause musicale. Au retour, là, je voudrais que vous nous parliez plus précisément de votre dossier qui s'appelle la charge mentale verte. Alors, petite pause musicale, puis on revient avec nos deux invités écoféministes.
Thank you.
Alors, c'était Nathalie Choquette. La pièce, c'était Air sur la corde de sol. C'est de Jean-Sébastien Bach. Un peu plus tôt, on avait eu Fred Pellerin qui chantait la pièce « Quand vous mourrez de nos amours ». En début d'émission, c'était de l'album de Richard Séguin, « Retour à Walden ». C'est Joanne qui chante « Mon enfant ». Alors, de retour avec nos deux invités, Mme Murati et Mme Germain, du regroupement des femmes de la région de la capitale. Alors, on disait que vous étiez le comité écoféministe du regroupement puis que vous occupiez de la charge mentale verte. Pouvez-vous nous parler de c'est quoi la charge mentale verte?
Oui, alors d'abord, j'aimerais juste revenir un petit peu sur si la partie écoféministe qu'on a parlé avant, juste de se rendre compte aussi que... Oui, l'écoféminisme, c'est de se rendre compte de la place que les femmes ont dans l'écologie, mais c'est aussi de se rendre compte et de visibiliser l'impact que l'écologie a sur les femmes et particulièrement sur la crise climatique. Les femmes sont touchées de façon disproportionnée par les impacts de la crise climatique. On sort souvent des très gros chiffres au niveau international que l'ONU avait sorti de dire que lors d'une catastrophe climatique extrême, ben, les femmes et les enfants, ils sont 14 fois plus susceptibles de mourir que des hommes. C'est pas rien. On dit aussi que il y a 4 personnes sur 5 qui sont déplacées par les effets de changement climatique, qui sont des femmes et des filles aussi dans le monde. Donc aussi, c'est se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur des femmes. Et c'est ça qui amène aussi à réfléchir aussi avec une vision écoféministe, en fait, à l'impact de ces politiques. Tout à l'heure, vous parliez aussi des énergies fossiles. C'est ça, on parle souvent... Les écologistes parlent souvent de sortir des énergies fossiles parce qu'on sait qu'effectivement ça a beaucoup d'impact sur les gaz à effet de serre, et les gaz à effet de serre qui vont avoir des impacts sur la crise climatique, sur les îlots de chaleur dans lesquels ce sont des femmes qui sont le plus souvent logées dans des quartiers les plus pauvres et donc qui vont en subir les conséquences. Mais aussi, ça a aussi un impact sur la façon dont on conçoit notre société, de continuer à aller dans les énergies fossiles, de continuer à subventionner comme en ce moment fait M. Carnet en enlevant des taxes à l'essence. Ça continue à faire des villes qui sont pensés pour des voitures, et il faut se rendre compte que quand même dans une ville, dans des villes qui sont surtout, on pense à la ville de Québec qui a des tristes records de nombre de kilomètres d'autoroute par habitant dans les plus élevés, eh bien ces villes-là, il faut se rendre compte que ce sont dans des couples surtout hétérosexuels, ce sont les hommes qui ont plus de voitures que des femmes. Donc de continuer à faire des villes qui sont autour des voitures, c'est continuer à faire des villes conçues par et pour des hommes. Donc on est loin des villes féministes dans lesquelles il faudrait avoir plus d'investissements dans des transports en commun et tout ce qu'il y a de transport actif, parce que ce sont les femmes qui utilisent le plus souvent le transport en commun et qui vont plus marcher. Donc tant qu'on est encore dépendant de ces énergies fossiles, on va en continuer à faire des villes qui sont conçues par et pour des hommes. Donc, et tout ça amène les questionnements justement sur la charge mentale verte, en fait, qu'on a élaborée, de se dire toute cette charge qu'on porte, nous les femmes, pour faire ces changements, pour s'adapter à cette société. Donc là, je parlais justement là, des transports, parce que c'est quand même quelque chose aussi de se dire que bon, on va prendre le bus, on va marcher, parce que bon, peut-être qu'on n'a pas les moyens à cause de ce que je viens de dire, la notion genrée, donc des hommes qui ont plus des voitures, mais aussi parce qu'on n'a plus cette conscience écologique. Donc on va faire plein de choix comme ça dans notre quotidien, et comme on porte plus la charge mentale domestique, familiale, de prendre soin, eh ben on va porter aussi plus tous les changements qu'il faut faire au niveau écologique. Donc par exemple, quand on pense au niveau domestique, dans une maison, s'occuper de la nourriture, ça va être plutôt encore les femmes qui sont en charge. Donc se dire manger bio, faire du compost, tout ça, ça va être les femmes qui vont le porter plus. Mais aussi après, dans le soin des enfants, se dire est-ce que je passe des couches jetables ou lavables, tout ce qu'il y a aussi en rapport avec les produits domestiques, donc pour c'est ça qui est en lien avec le nettoyage des maisons, etc. Tout ça, ça va être encore les femmes qui vont le porter, faire du recyclage, faire du compost, tout ça, ça va être une charge supplémentaire pour les femmes. Donc c'est un peu ça qui nous a amené à réfléchir sur ce concept de charge mentale verte, de se dire que parce que par leur rôle genré, les femmes ont un impact, vont porter plus ces changements, cette adaptation en fait qu'il faut faire pour en fait contrer cette crise climatique ou faire sa part. Et cette charge mentale va amener, on parle de charge parce que ça va amener une éco-anxiété plus forte, ça va amener un stress plus élevé chez les femmes. Parce que finalement, elles sont souvent, elles vont souvent être entre les deux, de se dire comment je peux faire ma part. Donc elles vont porter ce poids-là de faire leur part et en même temps de se rendre compte que la société n'est pas faite pour que ce soit plus facile à s'adapter. Donc elles vont être face à des choix qui demandent quand même du jetable plutôt que du recyclage, enfin bref, des choses qui vont faire que c'est, pour elles, c'est très difficile. Et en plus, on est dans une société qui est très individualisée à ce niveau-là, de mettre le doigt sur les personnes en disant « t'es pas un bon citoyen, quoi, si t'as pas bien recyclé, si tu compostes pas bien, etc. » Donc c'est porté juste individuellement. Et nous, en fait, c'est ça, là, dans le comité, on veut amener ça à, d'une, se rendre compte de ça, de cette charge mentale qui est verte, qui est portée principalement par des femmes, voire majoritairement, disons, par des femmes, mais aussi de porter le message qu'il faut arrêter d'individualiser cette charge-là. Ça doit être une charge collective. Il faut que les gouvernements, il faut que, c'est ça qui est à tous les paliers, en fait, qu'il y ait des réglementations, des lois qui permettent d'alléger cette charge-là au niveau individuel. Donc, c'est un petit peu ça sur lequel on a travaillé. Puis, c'est ça, on va bientôt sortir une brochure donc, pour parler de cette charge mentale verte, pour se rendre compte des impacts que ça a sur les femmes et que c'est ça, un poids trop grand. Et en même temps, de valoriser le fait que les femmes, comme disait Elisabeth, de par tout ce qui est notre historique et le fait qu'on a été socialisées pour justement porter les soins, etc., on a une expertise en transformation, en adaptation qui devrait être beaucoup plus valorisée. Donc, au lieu de nous faire porter le poids, ce serait plutôt de valoriser le poids qu'on porte et de aussi le décharger collectivement. Donc, on en est un peu là.
on le sent... Je le sens, moi, en tout cas, que les femmes, on dirait que c'est plus...
On le sent que les femmes, c'est comme, on dirait que c'est peut-être à cause du rôle, comme dit Jean-Henri, qui existe depuis toujours, que c'est... Ça se fait plus tout seul d'avoir un comportement ou une façon écologique de fonctionner. Mais ça peut devenir une charge si on faut pas culpabiliser, puis faut pas abuser de ça. Et puis il faut partager le fardeau. Il faut que tout le monde embarque. Puis moi personnellement, je suis un écologiste, ça se fait tout seul là, mais je le perçois que pour des hommes pas naturels, c'est moins naturel en tout cas. Tu sais,
je sais pas si c'est moins naturel, mais je sais qu'il y a bien des domaines où ils pourraient immédiatement porter une partie de la charge,
ouais.
Ça serait peut-être de se défaire de leurs chers autos. Imagine-toi ce que ça ferait comme changement écologique si les hommes se disaient, ben nous, notre part, ça pourrait être particulièrement par rapport au pétrole et aux autos, parce que c'est nous qui les utilisons le plus. Ça serait énorme.
Moi j'ai une voiture parce que j'ai des déplacements à faire, mais toute ma carrière, là, je suis retraité. J'ai toujours été travailler en vélo. Toujours, toujours. Puis, pour moi, on est du comité Saint-Pierre volontaire. Puis, pour moi, c'était pas un effort. Au contraire, quand on commence ça, c'était beaucoup plus relié à la qualité de vie. Si tu peux prendre ton vélo ou marcher, le vélo, ça donne quand même une assez grande, un rayonnement, là, de à peu près. On dit qu'on peut aller travailler en vélo si la distance de ton travail est de moins de 10 km. C'est quand même, ça donne une bonne marge de manœuvre et ça améliore tellement la qualité de vie. Fait que les gens au travail disaient hey, félicitations, bravo pour ton geste. Mais non, je fais zéro effort. C'est au contraire, ça, j'en ai besoin. ça devenait comme un besoin, un plaisir de la vie. Là.
Alors, justement, là-dessus, là, c'est drôle qu'on parle de vélo parce que Accès Transport Viable a sorti des études là-dedans pour montrer que malheureusement, ça aussi, c'est plus des hommes qui vont faire du vélo que les femmes. Et pas parce que les femmes ne veulent pas faire de vélo, mais parce que les pistes cyclables ne sont pas assez sécuritaires pour les femmes. Donc ça, c'est encore un enjeu de société.
C'est
ça qu'on dit, c'est pas juste individuel. Moi-même, je fais du vélo d'hiver, on s'entend que c'est pas mal encore l'hiver, mais il y a des moments où j'ai arrêté parce que, ou des endroits où je ne veux pas aller parce que j'ai trop peur de me faire
attracher
par une voiture. Donc c'est ça, ça fait que ce sentiment de sécurité, puis on peut s'imaginer que les femmes, en plus, quand elles font du vélo pour des déplacements, parce qu'elles vont plus faire du vélo pour faire des déplacements que du tourisme ou du loisir, on va dire, ben, elles vont porter de l'épicerie, elles vont porter un enfant, elles vont être avec elles. Ça fait qu'aller sur des routes qui ne sont pas sécuritaires avec des enfants, elles ne le font pas. Donc, c'est, comme je dis encore, cette pensée à cette ville féministe, c'est aussi ça. Là, à un moment donné, il faut se rendre compte à quel point c'est genré. Et que oui, il y a des efforts qu'on porte trop individuellement qui devraient être portés collectivement.
Je dois admettre que je demeurais tout près d'une piste cyclable, une vraie piste cyclable, pas une bande, une piste cyclable. Mm. J'étais la plupart du temps sur une piste cyclable de chez moi, presque au bureau, à peu près 10 km de... Fait que c'est pas, on a du chemin à faire avant d'arriver à ça. Fait que là, on va prendre une dernière petite pause musicale. Pour retour, il va nous rester quelques minutes pour conclure, puis voir, donner des pistes là, pour l'avenir. De l'album The Music of Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen, c'est une des premières écoféministes connues, en tout cas, au Moyen-Âge, qui était une femme exceptionnelle, qui a écrit des textes fabuleux, qui soignait les gens, c'était une sorte de magicienne, et elle composait de la musique. Alors, c'est le titre de la pièce, c'était « Song to the Mother ». Alors, il nous reste 5 minutes pour conclure. Est-ce qu'on a des pistes à donner ou des recommandations à donner aux auditeurs dans le dossier de la charge mentale verte?
Ben oui, on a des recommandations qui sont, oui, un peu au niveau individuel, mais comme on disait, particulièrement au niveau collectif. Puis on parlera aussi, c'est ça, au niveau économique. Mais tout à l'heure, c'est ça, on disait déjà de partager cette charge mentale au sein d'un couple, au sein dans la collectivité, c'est bien important. Mais aussi, donc, c'est se faire des pressions aussi au niveau de nos décideurs pour qu'il y ait des lois, des règlements qui passent pour faciliter les choix de la vie, de faciliter nos achats. J'aimerais faire rebondir justement sur tout à l'heure, tu parlais justement de l'économie circulaire, qui est tout à fait un très bon exemple. Et au niveau du textile, en fait, on sait que les femmes sont les principales consommatrices de textiles, puisqu'il faut qu'elles achètent aussi les vêtements des enfants, qu'elles sont victimes de la mode, etc. Puis on a un gros problème en ce moment au niveau de la fast fashion, quand même, le secteur du textile fait à peu près, on dit, 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui produit, donc c'est énorme. Et puis c'est 20% de la pollution des eaux potables. Là-dedans, c'est compliqué parce que c'est ça, il faut voir à chaque fois pour les femmes de se dire quel vêtement j'utilise, est-ce que ça c'est un vêtement qui est bio, etc. Et donc c'est beaucoup de charges et beaucoup de choses à prendre en considération. Mais il existe des exemples, comme par exemple en France, avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui est en train de travailler sur une loi pour réglementer la mode et les textiles, et qui va amener vraiment à lutter contre la fast fashion. Donc, qui va donner des malus à des industries qui sont polluantes, qui vont interdire des publicités, etc. Donc, c'est possible de faire des réglementations qui vont faciliter les achats, en fait, des individus, puis notamment des femmes. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres sur lesquels on peut pousser, nous, comme citoyens, puis comme consommateurs, de dire au gouvernement, donnez-nous, aidez-nous dans nos choix pour avoir des choix plus éco-responsables.
Puis, je dirais que si on veut s'en aller à un niveau plus global, il y a toutes sortes d'initiatives, de création d'alternatives au niveau local, au niveau micro, qu'on essaie de collectiviser, d'élargir, comme Claire vient d'en donner un exemple. Mais en fait, c'est l'économie globale qu'il faut changer parce que l'économie, elle est orientée vers la marchandise. Elle est pas, et la consommation, elle n'est pas orientée vers remplir les besoins humains. Alors, il faudrait une économie des besoins et des soins plutôt qu'une économie de la marchandise.
Ivan Illich appelait ça la convivialité. Mm-hmm. Il faut retrouver la convivialité. Mm-hmm. Oui.
Puis les économistes poussent aussi beaucoup à mettre aussi les femmes dans des lieux de décision. Parce qu'en fait, les femmes, de par ce qu'on disait, leur expertise, elles savent mieux que les hommes comment s'adapter au changement climatique. Et malheureusement, elles ne font pas partie, elles ne sont pas là dans les moments de négociation pour voir comment se relever après une catastrophe, etc., alors que ce sont elles qui ont le plus d'expertise. On dit aussi qu'au niveau politique et au niveau des affaires, les recherches, ça montre qu'il y a des liens très clairs entre le leadership des femmes et les mesures qui sont prises pour lutter contre les changements climatiques. Donc, les fameux boys band dans le monde des affaires, c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment réfléchir, se dire stop, parce que justement, pour lutter contre les changements climatiques, il faudrait qu'il y ait plus de femmes qui aient des leaderships dans ce monde-là. Donc, encore là, dans l'économie.
Il y a un livre qui s'appelle « The Story of Stuff ». Ça avait été traduit en français « Planète jetable ». Puis c'est une femme qui apprenait un produit. Je vous donnais l'exemple, par exemple, d'un T-shirt. Là. Puis elle remontait jusqu'au début là, où on cultivait le coton. Là. Puis elle disait, si on réalisait toute l'énergie, le travail, les ressources qui sont juste dans un T-shirt, là, on en prendrait vraiment soin pour l'étirer le plus possible. La quantité d'eau que ça prit...
2700 000 litres pour un T-shirt.
C'est fou, là. C'est fou. Puis elle a fait ça pour différents produits aussi. Vous pouvez le trouver à la librairie, là, c'est Planète Jetable chez Éco-Société ou The Story of Stuff, oui.
Oui. Tant qu'à parler livres aussi, ben, je pourrais vous recommander un livre dont le titre est tout simple, La subsistance. En fait, en sous-titre, c'est Une perspective écoféministe. C'est écrit par deux pionnières de l'écoféminisme qui sont Maria Mies et Véronica Benholt. Et vraiment, c'est une... c'est une somme, puis en même temps, c'est un livre de base, là, et ça montre très bien tout l'enchaînement de l'économie, de la mise de côté peu à peu du soin apporté à la planète et des difficultés de vivre quotidienne dans lesquelles on se trouve, parce que la crise actuelle de la vie chère, ben, c'est un déni d'écologie.
Puis la crise des migrants, on ne le réalise pas, mais notre richesse, notre confort matériel, il est sur le dos de ces gens-là qui sont exploités. Là. C'est pour ça qu'ils s'en viennent ici. Les gens ne comprennent pas que nous, on a gagné la loterie du pays riche, là, mais eux... c'est une grosse problématique. Là.
Tout à fait.
Écoutez, l'émission est terminée, malheureusement. Je veux remercier nos deux invités du regroupement des femmes de la région de la capitale, Mme Claire Murati et Mme Élisabeth Germain, qui nous parlaient de leur comité au sein du regroupement qui s'appelle le comité écoféministe, qui était notre sujet. Peut-être qu'on pourrait se reprendre. C'est un sujet que je trouve important, l'écoféministe. Alors, merci à vous.
Merci de nous avoir invités pour parler de la charge mentale verte. C'est une première.
Peut-être à une prochaine.
C'est bon.
Merci.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Coupures budgétaires, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle, les vendredis à midi sur les ondes de CKIA FM 88.3.
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'entrepôt du rock avec des morceaux de qualité comme... Cette offre est d'une durée limitée.
Juste une heure chaque semaine.
L'entrepôt du rock avec Yannick Plouffe. Une seule adresse pour vous servir. Vendredi 20h sur CKIA 88.3.